l'émission de littérature sur Radio Campus Orléans et nous avons le plaisir d'avoir en direct par téléphone Charles Robinson pour parler de son livre à paraître demain dans toutes les librairies qui s'appelle Dans les cités. Merci beaucoup Charles Robinson d'être avec nous en direct par téléphone.
Je vous en prie.
Donc, tout à l'heure, il y a cinq petites minutes, j'ai présenté votre livre. J'ai lu un passage d'une scène un petit peu légèrement érotique entre deux adolescents pour donner aux auditeurs une idée de votre langue, de votre inventivité d'image dans la langue. Ma première question, ça serait sur le sujet de Dans les cités. Je trouve que c'est un sujet finalement assez proche de génie du proxénétisme dans le procédé. Et ma question va vous paraître peut-être un peu brutale, mais est-ce qu'il vous faut un sujet mille fois rabattu pour être aussi inventif ?
C'est une question que je ne m'étais pas posée. Je ne sais pas si les cités en littérature sont vraiment un sujet si rabattu que ça. C'est effectivement sur l'ensemble de l'expression sociale, enfin sur si on prend tous les médias, les cités sont un sujet qui est très très abordé. En littérature en tant que telle, je suis moins convaincu que ça. Par contre, ce qui est certain, alors il y a effectivement entre ces deux projets-là incontestablement une similitude très, très particulière, qui je pense qui est un peu un hasard, qui n'est pas représentatif de l'ensemble des projets qui moi m'intéressent. J'ai en tête une dizaine de projets, et finalement, ce point commun, il existe entre ces deux premiers livres. Donc c'est un peu un hasard. Cette similitude, c'est sur le fait d'essayer de réaliser, dans le cadre d'un projet romanesque, une radiographie d'un milieu culturel. Alors, il se trouve que ce n'est pas du tout le même. Dans Génie du proxénétisme, le milieu culturel, c'est le milieu des entrepreneurs, la langue libérale, la culture libérale. Là, c'est un sujet plus large, plus diffus aussi, plus complexe, moins précis, puisqu'il s'agit de la vie dans les cités et de ce que vivre dans les cités génère comme façon de penser, comme façon de se penser, comme façon de penser les relations aux autres, etc. Mais dans les deux cas, on a une radiographie qui est réalisée d'un milieu culturel, même si les moyens sont très très différents. Donc c'est, pour moi, la similitude, elle serait plutôt de ce côté-là. Après, et pour rebondir quand même sur la proposition que vous me faites, il est certain que pour moi, il y a un enjeu qui est fort sur la question du littéraire aujourd'hui, puisque la littérature a été un genre dominant dans la façon d'appréhender le monde pendant toute une partie, enfin finalement une petite partie de l'humanité, mais par rapport à notre culture, une période qui est importante, qui est 19e siècle, début 20e siècle, et puis la littérature est peu à peu supplantée par d'autres moyens, le cinéma, la télévision, Internet, qui viennent un peu se écraser, entre guillemets, et cornériser, on pourrait dire, l'espace littéraire. Donc il y a un enjeu, du coup, pour quelqu'un qui aime la littérature, de se dire est-ce que la littérature peut faire quelque chose que les autres moyens ne peuvent pas faire? Et peut-être que le fait d'aborder des sujets rabattus, donc des sujets qui ont été beaucoup abordés, alors pour le coup, en dehors de la littérature, c'est une façon d'essayer de confronter modestement le fait littéraire, et en particulier le roman, qui est le genre qui m'intéresse, à la façon dont d'autres moyens plus forts aujourd'hui, plus évidents, ont pu se saisir d'un sujet et dire, voilà, en littérature, je vais être capable de vous faire la nique, d'une certaine manière, et de vous montrer que la littérature peut faire, sinon mieux, en tout cas, tellement différemment qu'elle en redevient nécessaire et puissante, d'une certaine manière. Voilà, peut-être un élément de réponse.
Je voyais aussi un deuxième élément, puisque vous abordez les similitudes entre Génie du proxénétisme, votre premier livre, et Dans les cités. J'ai l'impression qu'il y a un lien aussi, c'est avec ce billet d'une entreprise idéale, d'une entreprise idéale, d'une entreprise dont l'existence est impossible. C'était le cas dans Génie du proxénétisme, avec cette cité qui était une sorte de bordel. Et puis, l'agence Architecture, dans Les cités, qui emploie donc Rodolphe, cet ethnologue sociologue, archéologue qu'on va suivre dans la cité donc des pigeonniers. Architecturex, déjà rien que le nom de l'agence architecture, il y a déjà architecture et plus texte. Donc on se doute que c'est une entreprise que vous inventez, architecture.
Oui, alors ça, là c'est pareil, c'est une question qui est intéressante. Alors, juste un point peut-être de détail. En fait, Rodolphe, dans le livre, c'est celui qui recrute l'ethnologue, qui en fait s'appelle Charles dans le texte. Mais c'est juste un. Voilà.
Donc, je me suis trompé, désolé.
Un point, ouais, non, pas de problème. C'était juste pour remettre les choses. Sur la question d'entreprise idéale, alors c'est. C'est effectivement un thème qui est très présent dans Génie du proxénétisme. Il y a sans doute derrière ça une articulation à trouver entre un regard idéologique très fort, une espèce de projection, et l'entreprise comme moyen de réalisation de cette idée. Donc, en fait, dans les deux cas, ce qui va être le point commun qu'on va retrouver, c'est le comment fonctionne la confrontation, l'espèce d'impact. Quel est l'impact de l'idéologie dans le réel? Et pour trouver ça, le truc c'est l'outil de transformation, c'est la machine-outil, entre guillemets, de l'idéologie, et ça, c'est l'entreprise. Donc effectivement, de ce point de vue, la cité bordel de génie proxénétisme et architecture ont une fonction qui est identique, qui n'ont pas le même poids dans les deux livres, puisque là, l'architecture est finalement moins importante et va pas jouer un rôle aussi présent, en tout cas dans ce premier livre, que la cité bordel, mais il y a effectivement dans les deux cas il y a cette fonction qui est à l'œuvre et qui est une façon de voilà d'aller gratter dans le réel avec une volonté de transformation.
Parce que quand le directeur d'architecture, à un moment donné, donc il parle à Charles, l'ethnologue, et là, des paroles assez prophétiques de ce que devrait être une réhabilitation de cette cité.
Il y a dans ce projet poétique, enfin politique et poétique, dans les deux cas, l'idée de le réel, ça fonctionne pas, mais rassurez-vous, on va être capable de tout réinventer. Enfin, on pourrait tout réinventer. On pourrait tout refaire. Et ça, du coup, dans la société française est assez sclérosée. Il y a cette idée qui est triste que tout est arrêté, que tout s'effondre, est poussiéreux, etc. Donc, j'aime bien, comme projet littéraire, il y a quelque chose qui me titille dans l'idée de mettre en avant des gens qui justement débarquent un peu en roulant des mécaniques et expliquent qu'ils vont. Qu'au fond, vous avez construit un monde qui ne marche pas du tout et on va vous le refaire. Ça, effectivement, je pense que ça me touche, ça me titille, ça m'intéresse sur le plan politique, ça m'intéresse aussi sur la façon dont, du coup, ces gens voient le monde, voient les autres, quel rapport ils construisent et du coup, quel rapport on construit au réel. Et la littérature comme lieu où on peut jouer avec le réel, un peu comme avec des Legos. Donc soit en le réalisant complètement, c'est le cas de la cité bordel, soit en le projetant, c'est le cas de Dans les cités, il y a quelque chose qui m'intéresse et qui colle bien aux potentialités du littéraire.
Parce que je vais continuer sur cette idée de architecture, donc ce cabinet, vous l'avez vraiment inventé.
Oui, architecture est une invention. C'est une invention et... Dans architecture, on trouve il y a tout un tas de connotations. Il y a le projet architectural, il y a le projet urbanistique, il y a l'idée de texte évidemment. Donc comment on va travailler sous tous ces aspects, redessiner le réel, lui redonner un sens, ce qui est la connotation du texte. Comment finalement le réel serait hautement reconfigurable. Et le projet de littérature, c'est de la configuration. Donc il y a une adéquation entre ces entreprises et les potentialités du romanesque.
Oui, parce qu'à un moment donné, donc le directeur d'architecture, on est vers les pages 100, il voit donc Charles, l'ethnologue, sociologue, et puis il a ces mots qui surprennent. Il dit, c'est pour ça que dans ton étude, je veux sentir les rêves. L'urbanisme et l'architecture sont connectés à toutes les dimensions de la vie, économique, familiale, amoureuse, psychique. Il faut tout irriguer. On ne dessine pas des rues, on crée des possibilités. Juste avant, il lui a dit, je veux que tu me recrées leur univers, en parlant donc des familles qui habitent la cité HLM des pigeonniers. Il dit, ce n'est pas de la sociologie, c'est un jeu vidéo, je veux me déplacer là-dedans. C'est quoi cette porte? Il veut tout savoir de leur vie, et c'est ce que vous allez écrire du coup dans votre livre Dans les cités. On est dans leur vie au plus près de leurs secrets.
Ouais, alors ce qu'on entend, enfin ce que moi j'entends en tout cas quand vous me relisez ce passage, c'est cette. Il y a une dimension totalitaire dans le discours que tient l'architecte. Et la littérature est aussi un projet total, en tout cas sur un roman comme celui-là. Donc il y a une sorte de connexion. Donc ce qui m'intéressait là dans le passage, c'est qu'il y a une sorte de métaphore du roman, voilà, qu'on perçoit assez net. Il y a en fait l'architecte passe en commande à l'ethnologue d'une étude d'ethnologie, décrit en fait ce qui va devenir ce qui est en quelque sorte le régime secret du roman, à certains égards. Donc il y a des connexions. Mais derrière ça, il y a aussi une dimension plus curieuse, plus sombre, parce que c'est pas seulement une étude, c'est aussi une description qui va être intégrée dans le projet architectural. Et il y a cette dimension totalitaire qu'on retrouverait d'ailleurs dans Génie du proxénétisme, où on pourrait tout réorganiser à partir de certaines idées, à partir d'une certaine vision, et juste un petit groupe de gens, malins, intelligents, arriverait à refaire le réel pour vous. Et du coup, vous n'auriez plus besoin de vous en occuper, qui est une des, enfin, qui est au demeurant un des grands drames historiques dans la façon dont sont construites les cités.
Dans le détail de votre livre, on trouve le détail des habitants. On trouve des détails très privés, on trouve des détails intimes, on trouve plein de bouts de vie. On a des dizaines et des dizaines de portraits, des portraits qui sont magnifiques, des portraits qui sont bouleversants, touchants, qui sont très choisis. J'ai envie de vous demander, est-ce que ce sont des vraies vies qui vous ont inspiré? Est-ce que ce sont entièrement des personnages fictionnels?
Alors oui, c'est entièrement de la fiction. C'est entièrement de la fiction. Après, il y a plusieurs choses. D'abord, comme le personnage principal est un ethnologue, il fallait qu'on ait le sentiment, il fallait entre guillemets qu'on ait un sentiment non littéraire, même si ce sont des moyens de littérature qui sont appliqués. Donc moi, ça me fait plaisir que vous vous posiez la question. Ça veut dire qu'il doit y avoir quelque chose qui commence à marcher dans le roman. Donc ça, bonne chose. Et du coup, pour trouver ça, il faut passer par toute une variation dans les types de portraits. Donc passer parfois par du récit, parfois juste par une petite description, parfois par une simple allusion. Il faut trouver tout un tas de méthodologies qui correspondent à la diversité des sensations qu'on peut avoir quand on se déplace dans un milieu particulier, qu'on rencontre tout un tas de gens et que enfin, toutes ces personnes, on les rencontre de manière très différente. Certaines, on va avoir une discussion franche, donc on aura un point de vue sur, je ne sais pas, les opinions politiques ou la personne va vous raconter sa vie amoureuse. D'autres, on va simplement les apercevoir, donc on chopera un tout petit détail. Pour certains, on aura une anecdote. Pour certains, on entendra parler par quelqu'un d'autre et donc on aura peu d'éléments et puis de manière déviée. Quand on a une vision du monde ou d'un milieu, c'est toujours de manière beaucoup moins claire que dans le roman classique où on a une vision systématique, très organisée, très logique des choses. C'est fait de plein d'éclats, en fait, la fréquentation d'un milieu. Et c'était ça que je voulais retrouver. Par contre, concrètement, tout est de l'invention. Tout est de l'invention. Et en matière d'invention, moi, ce que j'aime bien dans le roman, c'est cette dimension de hachoir à viande. Un roman, c'est une machine dans laquelle on engage des gros morceaux d'expérience vécue, des morceaux de vie personnelle ou de gens qu'on connaît, qu'on place à l'intérieur de ce roman, et puis on active la machine à écrire qui broie tout, qui rend tout impersonnel, et qui fait que plus rien n'est reconnaissable par rapport à ce qui a été dit. Donc on peut du coup aller très loin, être très cruel, être très impudique dans le roman, parce que, entre guillemets, on ne révèle rien des personnes. Ce que j'essaye d'attraper dans le roman, ce sont les mécanismes à l'œuvre chez les gens, ce sont les intensités dans la douleur, dans la rage, dans l'amour, dans le désir. Donc tout un tas de tensions et de potentialités, mais entre guillemets, pas la chair réelle de l'anecdote qu'ont vécu les gens. J'essaye de reconstruire, j'essaye de saisir dans le réel un certain nombre de mécanismes et d'intensités à l'œuvre, de les placer dans le roman et à partir de là de construire une chair fictionnelle qui va venir les rendre vivantes dans l'espace romanesque. Mais il n'y a pas d'anecdote en tant que telle qui traverse, j'ai envie de dire, à l'identique de la vie vers le roman.
Et alors, je me dis que c'est sans doute pour ça aussi que ce livre dans les cités, moi je l'ai lu, j'ai fini de le lire aujourd'hui, et puisque du coup il sort que demain, donc du coup je l'ai reçu en fin de semaine dernière, je l'ai avalé très très rapidement, il est magnifique, et je l'ai reçu comme un roman sur l'adolescence. Pour moi, c'est un grand roman sur l'adolescence. Ça parle énormément d'adolescents et la manière dont vous les imaginez, dont vous les faites vivre avec votre langue, j'ai trouvé que c'était un grand roman sur l'adolescence et un roman sur les premiers émois amoureux. Est-ce aussi cela que vous voulez y mettre ?
Oui, vous avez entièrement raison. C'est clairement la tonalité générale. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que ça m'intéressait donc de travailler sur les adolescents qui sont très dénigrés d'une manière générale dans la culture française, sur qui il y a vraiment un mépris. C'est la gingra, l'adolescence. Bon. Donc c'était intéressant au contraire de passer à l'intérieur et de voir comment ça marche, qu'est-ce qui fonctionne. Et il y a une dimension très riche, très très potentielle. Il y a quelque chose qui bourgeonne mais qui n'a pas encore éclos. Et ça c'est assez beau à saisir. Cette potentialité, et puis cette, en l'occurrence dans les cités, une potentialité, une virtualité qui est contrariée, qui est immensément contrariée, qui est mise sous cloche, qui est broyée, qui ne peut pas pousser, donc qui est obligée de trouver des astuces. On est dans une espèce d'invention un peu de... Il y a le thème de la mutation, du mutant, qui est très présent dans le livre, parce que ces adolescents vont... puisqu'ils ne peuvent pas pousser comme ils le voudraient, hop, ils cherchent des biais, des alternatives. Donc ça, c'est un premier aspect. Et le deuxième aspect qui me semblait important d'un point de vue plus sociologique, et qui est assez présent dans le livre, c'était de montrer comment l'adolescence a dévoré tous les âges de la vie. L'adolescence commence de plus en plus tôt chez l'enfant. C'est très frappant de voir comment les enfants ont déjà des réponses d'adolescents sur tout un tas de questions. Et l'adolescence se prolonge de plus en plus tard. Dans les formes de vie classiques permettaient de passer à l'âge adulte, le fait d'avoir un travail, de fonder un foyer, un travail rémunérateur, valable à vie, etc., d'être propriétaire de son appartement, se retrouve complètement éclaté, très tard, arrive de plus en plus tard dans l'existence, et parfois arrive de manière imitée, alors que ça correspondait à des âges très précis, très carrés. Tout le monde rentrait à l'âge adulte à peu près à la même période. Là, l'adolescence devient une espèce de pieuvre ou de méduse, quelque chose qui s'étend, qui commence très tôt et qui finit très tard. Donc, ça me donnait une tonalité intéressante qu'on retrouvait chez les adolescents, évidemment, mais aussi chez les adultes. Une espèce de fonction d'adolescentisation qui traverserait les gens à l'intérieur du livre.
Parce que, moi, il y a des personnages d'adolescents, des figures d'adolescents dans votre roman là, qui me bouleversent. Je sens qu'ils vont rester un peu dans ma tête longtemps. Il y a cette histoire d'amour, par exemple, une histoire d'amour assez tardive entre une fille qui s'appelle Goon, qui est une joueuse de poker sur Internet, et M, qui va monter une sorte de petite entreprise justement pour faire prospérer les talents de joueuse de poker sur le net de Goon. Je vais lire juste un petit paragraphe. Ça commence comme ça. M a reconduit les deux filles dans la cité et retenu Goon un moment de plus pendant que l'autre partait. Après quoi, il a descendu Goon dans la cave et, à la grande surprise de celle-ci, l'a renversé sur le matelas, dégrafé, déloqué, astiqué, enfilé, redressé et ramené à la porte de son immeuble. Goon, qui pensait qu'elle était supplantée, ne savait quel mot employer pour remercier son homme. Ça y était, un des événements secrets des cités, pour lequel les journalistes ne voulurent pas se déplacer, pas assez tapageurs, coucou, pas assez journal de 20 heures. Elles sont où les jeunes filles défigurées à l'acide? Une belle histoire d'amour. Tu crois que ça intéresse encore quelqu'un? Goon était amoureuse. C'est rapide, mais c'est. Ça reste en tête. Vous avez une manière de magnifier ces personnages d'adolescents, et on va parler de la langue dans quelques minutes, mais vous avez trouvé un incroyable attachement à ces adolescents. Vous les avez aimés pour les écrire ainsi.
J'essaye en fait. Alors oui, de toute façon, enfin, un romancier qui s'intéresse pas à ces personnages, ce serait quand même triste, ce serait triste et curieux. Surtout, ce que j'ai essayé de trouver, c'est, alors c'était compliqué parce que il y a plein de personnages qui leur disent des choses affreuses et vraiment pas agréables du tout. Mais ce que je voulais essayer de trouver, c'était comment eux le sentaient à chaque fois, comment chacun des personnages, adolescents ou pas, sentait et se plaçait en situation. Et du coup, dans un moment comme celui qui est décrit, enfin que vous venez de relire là, juste à l'instant, qui en fait, quand on le prend dans l'ensemble du livre, est assez cruel pour Goon. Ce qui est beau, ce qui est intéressant à saisir, c'est que pour le lecteur a beau savoir que c'est très cruel pour elle comme situation, elle, de son point de vue intérieur, l'éprouve comme quelque chose de beau. Et c'est ça qu'il faut aller saisir. C'est ça qu'il faut essayer de donner à ressentir. Comment chacun de ces personnages va construire son univers mental et va se sentir dans une situation, quelle que soit entre guillemets la réalité de la situation. Et du coup ça crée pour l'auteur une forme de bienveillance par rapport à cette sensation intérieure du personnage. Ça c'est certain. Je crois que c'est ça j'ai l'impression que c'est ça la chose qui me dictait. Il fallait trouver une forme de bienveillance. Il y a une note que j'avais prise au tout début du projet. Je me disais, il faut se souvenir de la leçon d'Oblomov. Oblomov, c'est un roman de Gontcharov, un roman russe. Et Gontcharov décrit tout un tas de personnages, un peu des parasites. Le roman est consacré à un homme qui laisse passer sa vie, qui dort. Ce qui est intéressant, c'est que le texte est extrêmement cruel, le texte de Gontcharov, vraiment assassin. Et pourtant, ce qui ressort, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent dans la littérature russe, c'est on juge les comportements, on juge les faits, on juge les paroles, on ne juge pas la créature, jamais. On doit toujours avoir, effectivement, vous parliez d'amour, c'est pas étonnant, on doit toujours avoir un attachement très, très profond pour la créature elle-même, quelle que soit la façon dont elle agit. Et je pense que ça m'a beaucoup, beaucoup marqué, et que c'est sans doute quelque chose qui est présent dans l'ensemble du projet.
Mais ce projet, en même temps, il tient beaucoup par votre langue. J'ai l'impression que votre langue, elle date du 19e siècle. Elle est très classique pour un sujet, lui, au contraire, très contemporain. Vous avez une langue très, très classique. Et en même temps, elle tient parce qu'il y a une grande invention d'images. Il y a une invention de métaphores qui sont très, très, très puissantes. J'aimerais que vous nous parliez de cette. De l'utilisation de votre langue et de l'utilisation presque de ce que je pourrais appeler un système métaphorique très puissant vous concernant.
Alors, la dimension, c'est qu'en fait, pour moi, il est possible de penser le roman qu'à partir du moment où je sais quelle langue il va parler. Enfin, ou plus exactement, à partir du moment où je sais quelle langue va parler dans le livre. Le livre n'est pas écrit en français, il est écrit dans un sous-ensemble, qui est le français dans les cités. C'est ça en fait le truc. Et le premier travail romanesque, c'est d'essayer d'aller repérer comment fonctionne cette langue, ce sous-ensemble, comment elle marche, qu'est-ce qu'elle active. Donc effectivement, il y a un fort registre de métaphores, parce que la métaphore est la figure classique de la poésie et c'est celle qui va permettre de mélanger des choses hétérogènes. Or, la culture populaire est extrêmement forte extrêmement habile, pour aller extrêmement ingénieuse, astucieuse, pour aller mélanger des choses qu'on peut de points communs a priori, pour aller utiliser un objet qui est, enfin un objet ou un sujet ou une image qui appartient à un autre registre et la plier, la tourner, la vriller pour en faire son miel, son beurre. Donc ça, c'est effectivement une dimension qui est très très présente. Et le gros travail de départ, c'est avant même de commencer à écrire, avant même de trouver les notions de style, qui sont des choses plus précises, plus ponctuelles, plus adaptées à un passage particulier, il faut aller repérer cette langue. Sur la question du 19, enfin, langue classique, c'est sans doute lié au fait que, pour moi, c'était important de débarquer dans les cités avec le bagage de la littérature classique, aussi bien de la langue que de la forme classique romanesque. Bon. Mais plutôt de poser ça comme une sorte d'autorité, avec tout ce que ça peut avoir d'écrasant et puis de parfois un peu méprisant, ou voire de très poussiéreux, au contraire, le poser au milieu des cités, le dégoupiller et laisser les cités envahir ça, envahir et nourrir. Et du coup, cette langue classique, elle est par exemple très très nourrie par les rythmes de la langue urbaine, par les rythmes de la langue orale. Après, il y a des choses un peu techniques, mais par exemple, il n'y a plus de point-virgule. Le point-virgule qui, dans la langue classique, construit des séquences très lentes. Là, au contraire, on est sur un système de fin, de vitesse, accélération, qui sont plutôt des choses qui viennent de la langue orale et de la langue urbaine. Et voilà, le début du livre, le début du travail, c'est arriver à construire cette espèce de... cette forme de langage, arriver à poser la langue classique et à la laisser, à la voir dynamiter, enrichie, enflée par tout ce que la culture populaire, tout ce que la culture urbaine des cités peut lui offrir, peut lui apporter.
Merci beaucoup Charles Robinson d'avoir répondu à mes questions. Toujours agréable de vous avoir au téléphone en interview, et ça sera avec un grand bonheur que je vous réinviterai pour la suite dans les cités, parce qu'il y aura une suite.
Il y aura effectivement un deuxième volume qui est donc annoncé à la toute fin du livre.
Merci beaucoup à vous, Charles Robinson.
Merci beaucoup à vous.